pour moi, et c'est, je dis que c'est un débat important, c'est un débat encore pour nous deux,
à la fois qui n'a jamais été formulé pleinement et qui se poursuit dans le temps, enfin, c'est quelque chose qui me plaît comme idée, c'est que j'avais prévu de finir exactement sur la même citation. Et que je la lis, bien entendu, totalement à rebours. Donc je vais essayer de refaire le parcours qui est à peu près le mien et qui est une sorte de contrepoint, avec des tas de points de croisement et d'emprunt, probablement à ce que tu dis aussi, qui est des choses qui m'intéresse énormément et qui me suscite aussi des questions et qui m'aide. Mais il y a des points, je crois, sur lesquels, effectivement, le clivage est fort. Alors, très, très rapidement, et pour ne pas être trop long, je vais procéder de manière assez schématique et probablement moins articulée que Mathieu. D'abord, des points d'introduction. Je pense qu'il faut être, en tout cas pour moi, mais je crois que c'est le cas pour les gens qui ont essayé de préparer ce séminaire, très clair. Bien entendu, poser la question de savoir si on peut penser à gauche avec ou sans Foucault, ça n'est pas ou ça n'est plus posé la question qu'on se posait il y a quelques années dans un espace qui allait effectivement de vacarme à multitude, pas seulement, enfin de cette zone-là de gauche non institutionnelle, on va dire ça comme ça, avec un fort rapport au militantisme et à la pratique, et qui était la question des lectures libérales de Foucault. Je crois qu'on est au-delà de ça, c'est-à-dire des lectures à la Éval, etc., etc., qui existent et qui se nourrissent aussi d'une ambiguïté qu'il y a dans les textes, dans certains textes de Foucault, et donc il ne faut pas se cacher que ça existe. La question qu'on a essayé de se poser, en tout cas moi je l'ai prise comme ça dans le séminaire, c'était finalement, est-ce que dans ce qu'on pourrait appeler une pensée de gauche aujourd'hui, ou une tentative de repenser à gauche aujourd'hui, Foucault est utile ou pas? Et moi, ce qui me convainc de l'utilité de Foucault, alors comme instrument, comme boîte, et je vais en reparler parce que je crois que l'image est belle et qu'elle est effectivement utile, c'est que la difficulté de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle n'est rien. Quand on se pose la question de savoir ce que c'est que penser à gauche aujourd'hui, c'est bien parce qu'on n'a pas de contenu pour cette pensée, qu'on n'a pas de définition de ce que c'est que la gauche, et qu'on n'a pas de sujet qui y corresponde. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'espace, je ne parle même pas de l'espace institutionnel qui, nous, en tout cas moi, ne m'intéresse pas, mais qu'on a rien de ce qui pourrait être des arguments, des problèmes, des tentatives, et un ou plusieurs sujets ou subjectivités collectives. Et c'est dans ce vide-là, dont moi je ferai un point de départ et non pas un point d'arrivée sceptique, que s'installe ma propre, alors je parle en mon nom, mais j'espère pas seulement, lecture de Foucault. Je pense que les noms que citait Tony tout à l'heure, qui étaient les noms italiens, Agamben, Esposito, c'est-à-dire qui sont lus ailleurs, Paolo Vierne aussi, enfin, il y en a d'autres, et dans une certaine mesure, la référence souvent négative de Rancière à Foucault, elle s'inscrit dans ce genre de choses, c'est-à-dire dans un dialogue qui est un dialogue constituant sur du vide, et un vide qu'a ouvert paradoxalement la crise de la gauche institutionnelle et certaines formes non institutionnelles de la gauche qui, effectivement, ont eu la vie longue après 68. Première chose. La deuxième chose, c'est que la question, c'est pas faut-il sauver Foucault, parce que ça ne nous intéresse pas de décerner des bons points, et que donc il ne s'agit pas de décréter l'utilité ou pas, la vie après la mort d'un auteur qu'on identifie souvent son parcours personnel ou pas. Il ne s'agit pas non plus de dire si c'est un bon philosophe ou pas, si c'est un philosophe ou pas, s'il appartient au champ du savoir ou pas, etc. etc. C'est pas un problème académique. La troisième chose qui pour moi est importante, c'est qu'il ne s'agit pas d'évaluer, et c'était bien que tu commences par ça, en tout cas pour moi, la correspondance de Foucault à une pensée de gauche de son temps, et encore moins bien entendu la correspondance de Foucault à une pseudo-pensée de gauche de notre temps. Foucault est mort il y a plus de 20 ans, et je pense que l'effet de décalage historique existe. Alors qu'est-ce que ça veut dire penser à gauche avec Foucault ? Moi, j'ai l'impression, et c'est une série d'hypothèses que je vous livre, mais c'est comme ça que je les utilise, moi, les références à Foucault, j'ai l'impression que Foucault est utile dans une ambiguïté que toi, tu appelles éthique, et dont moi, je pense que c'est une ambiguïté qui est une ambiguïté stratégique. Il y a une ambiguïté chez Foucault, et je crois que cette ambiguïté, elle est compréhensible à deux titres. Il y a une première ambiguïté qui est une ambiguïté volontaire, ce que j'appelle l'ambiguïté stratégique, et qui est probablement très tôt, dès les années 60, on voit ça avec les effets d'identification ou pas avec le structuralisme. Je suis structuraliste, mais je ne le suis pas. Je le suis, mais je les méprise et je le dis, etc., etc. Et on voit ça dans les années 64, 65, 66, jusqu'aux attaques violentes plus tard, jusqu'à l'ordre des discours. Il y a une envie de ne pas être repérable, ce qu'il reprend après dans le, de manière assez claire dans l'archéologie du savoir, ne me demandez pas qui je suis, etc. etc. Il y a une méfiance systématique à l'égard de l'identification. Et cette identification, elle est à la fois académique, elle est à la fois politique. Et cette identification, ça ne veut pas dire qu'on n'est rien, ça ne veut pas dire qu'on veut être autre chose, ou qu'on veut s'inscrire dans une dimension de la clandestinité qui pourrait être, par exemple, à la même époque, celle de certains Mao, ou encore aujourd'hui de certains Badjouziens, etc., etc. Elle est, je crois, réellement j'avance et j'avance masquée. Et elle est un j'avance masqué d'autant plus fort qu'au même moment, Foucault n'a de cesse de décrire des mécanismes qui sont des mécanismes d'identification, c'est-à-dire de situation ou d'enfermement dans des grilles qui sont à la fois des grilles de savoir, des grilles de pouvoir, des grilles de localisation, des grilles de nomination et des grilles d'identification, en termes identitaires, à la fois individuels et collectifs, massifiés. Je vous renvoie à Surveiller et punir et à cette chose qui, moi, m'a toujours beaucoup fascinée, dont je parle toujours trop, mais qui reste pour moi un moment très important de Foucault, dans Surveiller et punir, et qui est cette tenaille, non, cette double fermeture. D'un côté, on vous individualise, le gouvernement par l'individualisation, et de l'autre, on vous massifie. Et donc, vous êtes foutu. Vous êtes foutu parce que vous êtes identifié comme individu, et vous êtes aussi identifié comme appartenant à une population. Et ces populations sont créées en permanence et déplacées en permanence par le pouvoir. Donc, ne pas être ce que l'on dit que vous êtes, c'est le premier geste de quelqu'un qui veut s'affirmer comme sujet, non pas comme objet de discours et de pratique des autres, que ça se passe encore une fois au niveau individuel ou au niveau collectif. Ne pas être ce que l'on dit que Foucault est, je crois que c'est le premier geste de résistance explicite de Foucault dans son travail, et ce déplacement continu est, je crois, un déplacement stratégique et non pas une ambiguïté éthique qui serait aussi une ambiguïté politique. C'est au contraire, moi je crois, un geste fondamentalement politique et déclaré comme politique. La deuxième valeur que je vois à cette ambiguïté de Foucault, c'est le sens d'une recherche, c'est-à-dire relancer le palais toujours plus loin. Alors, ça n'a probablement pas de sens de parler ici de la périodisation interne du travail de Foucault, mais ça a aussi quand même du sens. On est, quand on lit Foucault, extrêmement frappé par la variété des champs d'enquête de Foucault, par la variété du lexique conceptuel, par la variété des paradigmes qu'il utilise, qui parfois se superpose, parfois se rentre se catapulte, parfois s'intègre, parfois s'élimine les uns les autres, etc., etc. Alors il y a le Foucault de la folie, puis il y a le Foucault de la prison, puis il y a le Foucault de la sexualité, puis il y a le Foucault de l'éthique, etc., etc. Alors l'effet d'empilement, il est à la fois faux et réel. Faux parce que je crois qu'il y a une même question qui travaille fondamentalement Foucault, et je vais essayer de dire ce que je crois que parce que je crois qu'elle est fondamentalement politique, mais c'est vrai aussi que cet effet d'empilement, on pourrait très bien lire comme une tentative de relancer la problématisation, et tu utilisais le terme, c'est-à-dire une tentative d'identifier des champs dans lesquels les questions peuvent se poser. Alors, les questions ont-elles une réponse ou n'ont-elles pas de réponse? Moi, je crois que c'est à la fois important et pas important. C'est pas important pour Foucault parce que poser la question, c'est déjà en soi créer de la rupture, c'est-à-dire mettre à l'index. Mais c'est en même temps important, et c'est là que moi j'ai des doutes sur la position sceptique, parce que ce dont parle Foucault, la réalité de l'asile, ou de l'enfermement, la réalité de la prison, la réalité de l'humiliation, la réalité de l'exclusion, la réalité de la solitude, la réalité de la souffrance physique et de l'inscription dans la chair des corps, des mécanismes disciplinaires, c'est à la fois de la description historique formidablement bien faite et passée, mais c'est aussi à partir du moment où Foucault parle de son travail comme une généalogie, non plus comme une archéologie du passé, c'est aussi une manière de parler du présent. Et que parler des souffrances et des corps, parler de la douleur et du conflit, parler de l'exploitation, alors bien entendu il y a des termes qui sont plus foucaldiens que d'autres, mais le mot exploitation par exemple est utilisé par Foucault, parler d'assujettissement, c'est un terme qui revient aussi, tout cela c'est parler de quelque chose qui n'est pas neutre. Et il me semble que dire que les problématisations et les productions subjectives se font d'autant mieux qu'elles se font à l'occasion de questions sans réponse ou de structures aporétiques, pour reprendre l'exemple sceptique, c'est assez violemment opposer d'une certaine manière, peut-être seulement d'une certaine manière, une fin de non-recevoir à tous ceux qui apportent des situations qui sont des situations de douleur et qui demandent que cette douleur soit, sinon résolue, en tout cas déplacé. Alors, je crois que ce déplacement, c'est un déplacement de type conflictuel. Moi, les deux points sur lesquels je voudrais orienter l'intervention, encore une fois de manière assez rapide, c'est deux points qui sont absents de ton discours et qui sont le thème de l'histoire et la rupture par rapport à l'histoire qu'on peut lire dans les théories foucauldiennes, une théorisation de ce que c'est que sa rupture avec l'histoire, première chose. Et la deuxième chose, c'est, deuxième thème, c'est le thème de la conflictualité et le thème de la création, le thème de la résistance et le thème de l'invention, le thème de la lutte, pour le dire de manière plus marxienne, et le thème de l'invention de soi. Alors, sur le thème de l'histoire, je crois que la grande ambiguïté de Foucault, c'est d'avoir été et de ne jamais cesser d'être un archéologue avant d'avoir été un homme de généalogie. Mais je crois aussi que c'est le temps de la recherche qui veut ça. Je crois qu'il y a chez Foucault l'idée qu'il faut d'abord et avant tout analyser les formes de ce qui a été. Formes de domination, formes d'exploitation, articulation, gestion de l'espace, gestion des corps, etc. Et que la démarche archéologique, c'est-à-dire reconstituer ce qui dans un passé plus ou moins lointain a été et n'existe plus, c'est une démarche d'historien. Et c'est dans un premier temps une démarche d'historien qui a en réalité, qui semble avoir pour seule fin cette reconstitution-là. Alors, on peut dire, et c'est évident, que ça n'est pas une conception de l'histoire téléologique, donc on a l'impression que c'est un épisode isolé, et on a suffisamment dit à Foucault que les descriptions des épistémées qu'il faisait dans les années 60, elles étaient suspendues dans l'air, sans avant et sans après, sans transition et sans rupture. L'épistémée d'âge classique, il a beau dire dans l'histoire de la folie qu'il y a un peu de l'avant, il parle un peu de la Renaissance, il y a un peu de Moyen-Âge, et puis il y a un éventuel après, on a l'impression que c'est un moment suspendu. Et encore une fois, je crois que les historiens à l'époque, et pas seulement les historiens, je pense aux critiques de Derrida, ont bien fait de dire c'est de l'histoire hors de toute histoire. Et c'est en partie vrai. Mais c'est vrai aussi, et c'est là que Foucault relance la question, qu'une fois que vous avez fait cette description de ce qui a été et ce qui n'est plus, vous avez envie de vous dire quand ça commence, et ça c'est une question plutôt facile à résoudre en réalité, en tout cas pour Foucault, mais vous avez aussi envie de vous dire quand est-ce que ça se termine. Quand est-ce que cette périodisation qu'on instaure et qu'on découpe dans l'histoire va se clore? Ça intervient très tôt chez Foucault, ça intervient dès la fin des mots et les choses. Alors on a commencé jusqu'à plus soif et glosé sur la mort de l'homme. Je crois que la fin des mots et les choses sur l'hypothétique mort de l'homme, il faudra peut-être un jour, mais bien un jour imaginer, etc., etc. C'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui, au-delà de ce qu'on a voulu y lire, et je crois de manière erronée, c'est-à-dire une sorte d'anti-humanisme déclaré ou de para ou pseudo ou néo-nietzschéanisme, je crois que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est une question qui dit, quand on décrit une périodisation historique au nom d'une continuité qu'on instaure dans cette discontinuité historique. Cette continuité, c'est une cohérence épistémique, c'est-à-dire ce qui tient ensemble des pratiques différentes, des gestes différents, des discours différents, au nom de quelque chose de commun, du côté du pouvoir. Quand on décrit donc un système de ce genre-là, on se dit, si ça a un acte de naissance, ça a nécessairement un acte de mort, un acte de disparition. Alors quand est-ce que ça se termine? Et moi, où je suis là-dedans? Je crois qu'au moment où Foucault écrit les mots et les choses, l'épistémée des mots et les choses, c'est encore la sienne. Et que l'hypothèse faite sur la fin de cette épistémée-là, c'est une hypothèse qui est un pari, mais qui reste un pari théorique. Il me semble que dans les années 70, alors j'ai pas le temps, mais je pense qu'il y a des points de basculement, en particulier il y a un point de basculement très pratique qui est l'expérience du GIP, au début des années 70, où Foucault se rend compte qu'on peut faire basculer les choses. La question du basculement, c'est une question qui est à la fois théorique, quand est-ce qu'une épistémée bascule, mais c'est aussi une épistémée pratique. L'épistémée, elle bascule pourquoi? Peut-être qu'elle bascule parce qu'on l'a fait basculer. Peut-être qu'elle bascule parce qu'on travaille la limite. Et travailler la limite, faites attention, c'est pas du tout au sens où Foucault l'entendait dans les années 60 quand il était encore subjugué par Bataille. C'est pas le passage à la limite, le passage dehors à la manière Blanchot, etc., etc. C'est pas un dehors qu'on cherche. On cherche pas un dehors du pouvoir, on cherche à creuser, miner, casser, briser, rompre, travailler, créer du conflit par rapport à ce dans quoi on est pris. On est toujours dedans. Dedans l'histoire. Dedans les déterminations économiques et sociales. Dedans, non pas l'histoire générale, dedans cette histoire qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Il n'est pas dit qu'on ne puisse pas travailler ce bord-là, de l'intérieur. Je crois que ça, c'est une position politique. Renoncer ou cesser de dire, s'échapper des déterminations, s'échapper de ce qui nous fait du mal, s'échapper du rapport de pouvoir, c'est sortir du pouvoir, c'est aller au dehors, ou alors c'est sortir de l'histoire, ou alors c'est chercher la marge. Vous pouvez reconnaître la marche d'Erida, les pensées du négatif, même ce qu'on dit à Gamben, c'est cette espèce d'écart qu'on crée, c'est ce passage à la limite qu'on cherche à instaurer. Moi je crois que c'est pas ça que Foucault essaie de dire au tournant des années 70. C'est de dire finalement, on ne sort jamais de cet état.